Radio Classique, les spécialistes.
Ouais, spécialiste avec Dimitri Pavlenko, vous le savez, Emmanuel Faux et Elodie Fondacci pour la culture. On va commencer par vous, Emmanuel. Révélation donc, notamment de notre confrère Le Monde sur Isabel Dos Santos. Donc son père a été président de l'Angola pendant 37 ans. Elle détiendrait 3 milliards de dollars, dont le tiers proviendrait des caisses de l'État angolais.
Ben oui, cette femme a profité de son statut de fille du président angolais pour construire une redoutable usine à aspirer et à détourner les fonds publics de son pays vers des comptes offshore. Que ce soit à Malte, à Dubaï, à Monaco ou au Portugal, l'ancienne puissance coloniale de l'Angola, tous les secteurs y sont passés, les télécoms, les banques, l'énergie, les médias, la grande distribution et même les diamants. C'est d'ailleurs par là qu'elle a commencé dès l'âge de 27 ans. Aujourd'hui, elle en a 46. Voilà donc ce que révèlent nos confrères journalistes du consortium international d'investigation, dont fait partie le journal Le Monde, qui ont décortiqué quelques 700 000 documents sur la base soit de piratage informatique, soit de fuite. Alors certains de ces documents émanent des sociétés de l'Empire Dos Santos, c'est-à-dire plus de 400 enseignes enregistrées dans une quarantaine de pays. Le mécanisme par lequel Isabel Dos Santos a bâti sa fortune consistait en gros à s'associer à des entreprises publiques angolaises, avec l'aide de son président de pair, d'utiliser une partie des fonds recueillis pour les faire fructifier à l'étranger à travers des circuits offshore, avant de les rapatrier. Ça, c'était la promesse. Sauf que dans l'opération, les partenaires publics qui empruntaient aux sociétés de Madame Dos Santos étaient le plus souvent éjectés de l'affaire sans revoir la couleur de leurs investissements, sans toucher un dollar de dividende. L'exemple le plus frappant, c'est celui de la grande société pétrolière Sonangol, la grande société pétrolière angolaise, qui en 2005 a investi 200 millions de dollars dans un partenariat créé par le couple Dos Santos pour acquérir 40% des parts du groupe pétrolier portugais Galp. L'argent a été placé dans des holdings contrôlés par le couple, et au bout de quelques mois, la valeur de l'actif a été multipliée par 2, puis par 6, puis par 7, sauf qu'entre-temps, la compagnie angolaise n'a pas eu le moindre retour sur investissement. Isabel Dos Santos, elle, a empoché des centaines de millions de dividendes qu'elle a placés sur un compte à la Deutsche Bank, et l'épilogue en 2015, figurez-vous, c'est qu'elle a été nommée à la tête du groupe pétrolier par décret présidentiel.
Voilà, dernièrement, et on termine brièvement, c'est le président actuel donc de l'Angola, le président Lourenço, qui est à l'origine probablement d'une grande partie de ses révélations.
Oui, parce que le président Lourenço mène depuis 2 ans une très vaste opération main propre, y compris à l'étranger, alors que son pays est en pleine récession. Celle qu'on a surnommée la princesse de Luanda, donc Isabel Dos Santos, est dans le collimateur. Ses comptes ont été saisis préventivement. Au Portugal et à Monaco, le parquet général a ouvert aussi une enquête pour blanchiment. Figurez-vous qu'Isabel Dos Santos, qui multiplie les conférences à travers le monde, était annoncée au Forum économique de Davos qui commence aujourd'hui. Elle devait faire le récit de ses exploits financiers. Évidemment, compte tenu de tous ces récents développements judiciaires, sa visite a été annulée.
Merci Emmanuel. Justement, Davos, nous y sommes. Ce sommet existe depuis des années. C'est le sommet des puissants sur le plan économique dans le monde. Au fond, on a expliqué tout à l'heure cette espèce de face-à-face à distance entre deux visions du monde, celle de Trump et celle de Greta Thunberg. Mais est-ce qu'il a encore un véritable impact sur la société et sur les dirigeants du monde?
Bien sûr, parce que les gens qui vont à Davos, ils sont près de 3000, sont tous des gens importants, des gens puissants, des gens qui ont vraiment une influence sur la société. Vous avez d'abord des chefs d'État, de gouvernement, toute une génération de jeunes leaders, pas forcément connus du grand public, mais déjà identifiés par le fondateur de Davos, Klaus Schwab, comme étant peut-être l'avenir de la société. Et puis, bien sûr, les dirigeants de très nombreuses grandes sociétés. On ne va pas citer l'intégralité, mais enfin, tous les patrons des GAFA, par exemple, sont présents. Et alors, oui, effectivement, ils ont une influence sur le cours des choses et loin quand même de cette caricature qui est faite entre d'un côté un espèce de capitalisme sans visage qui viendrait se réunir en club comme ça pour faire du ski ensemble et des vrais gens qui seraient mobilisés pour le climat. Le thème cette année à Davos, c'est pour un capitalisme des parties prenantes, un monde cohérent, un monde de cohésion et surtout soutenable, sustainable en anglais, cette idée vraiment qu'il faut aujourd'hui que l'économie trouve le voie d'un développement qui soit véritablement durable. Alors les enjeux immédiats, on va noter d'abord l'absence d'Emmanuel Macron, il n'y va pas cette année à Davos, Boris Johnson non plus, mais l'événement, ça va être Donald Trump. Il va prononcer un grand discours. Il est très attendu, notamment sur les questions commerciales. Est-ce qu'il va lever le pied? On se rappelle qu'il y a 2 ans, il avait commencé en fait son offensive sur le commerce international. On en connaît les conséquences. L'illustration la plus parfaite, c'est les prévisions économiques de la Banque mondiale. On note que toutes les régions du monde voient leur croissance probablement en baisse cette année, sauf les États-Unis. qui profitent effectivement de cet accord provisoire avec la Chine. Mais dans l'esprit, si vous voyez bien ce qu'il y a Davos, c'est pas Donald Trump versus Greta Thunberg. D'ailleurs, Greta Thunberg, elle y va pas en opposante à Davos. Elle est invitée par Klaus Schwab, le fondateur de Davos, qui disait encore il y a quelques semaines dans une interview passionnante qu'il avait donnée au Figaro, je vous en cite quelques lignes, il dit « Depuis toujours, je me suis élevé contre le credo de Milton Friedman, prix Nobel d'économie, selon lequel les entreprises doivent,
Chicago.
Selon lequel les entreprises doivent se concentrer sur leurs profits. Il a très bien compris, Klaus Schwab, ce qui se passe. Il dit aujourd'hui, nous vivons un moment un petit peu particulier et assez grave de notre histoire. Nous risquons d'aller vers une crise de génération. Une époque, l'époque que nous vivons est marquée par un retour de balancier à l'égard de la mondialisation, qui a quand même sorti de la pauvreté des centaines de millions de personnes. Il faut que les entreprises s'impliquent dans ce mouvement, que ce soit sur le plan de l'écologie, sur le plan également de la justice sociale, pour un capitalisme de long terme et pas uniquement pour du rendement de court terme. Voilà ce qu'il dit depuis le départ, depuis 50 ans, Klaus Schwab, qui n'a jamais dévié de sa trajectoire.
Voilà, Davos qui démarre donc aujourd'hui, c'est signé. Vous le savez, Dimitri Pavlenko. Nous allons terminer donc les spécialistes et continuer la matinale avec le théâtre. Le petit prodige du théâtre s'appelle Michalik, de son nom, et c'est une nouvelle pièce que vous avez vue pour nous.
Exactement, Gaël d'Ange, Tignasse Ébouriffé, regard franc, vous savez, ce gaillard de 37 ans, Alexis Michalik, c'est lui qui transforme en or absolument tout ce qu'il touche. Quatre pièces à succès qui se jouent simultanément à Paris en ce moment, dont le porteur d'histoire qui date de 2011 et qui vient de franchir la barre des 2 millièmes, et puis ce fameux Edmond qui lui a valu pas moins de 5 Molières, et j'omets en plus un roman chez Albert Michel et un film, l'adaptation d'Edmond. Mais comment fait-il?
Alors, voilà, Edmond, il faut rappeler que c'est l'histoire d'Edmond Rostand en train d'écrire.
Voilà, en train d'écrire Cyrano de Bergerac. Cette pièce-ci, qui se joue donc depuis le 9 janvier à la Scala, s'appelle Une histoire d'amour, même si le titre ne dit qu'imparfaitement ce qui se joue, puisque des histoires d'amour, il y en a plusieurs. Un amour peut en cacher un autre, si on peut dire ainsi. Mais celle dont tout part, c'est celle de Katia et de Justine. Katia est lesbienne, Justine ne l'est pas, a priori. Cela ne va pas les empêcher de s'aimer, de s'installer ensemble et un beau jour de désirer un enfant. Alors ce bébé, Katia, elle n'est pas sûre de le vouloir. Elle a eu une enfance assez difficile. Sa mère est morte d'un cancer et si c'était héréditaire. Et puis finalement, il y a l'amour de Justine qui va la rendre belle, qui va lui faire tout oser, par-delà l'inquiétude. Elles vont toutes les deux tenter une insémination artificielle et contre toute attente, eh bien c'est Katia qui tombe enceinte. Sauf que contre toute attente encore, c'est Justine qui la quitte quelques jours avant la naissance. Et 12 ans plus tard, eh bien, Katia va mourir parce que oui, ce cancer, il était héréditaire et elle a une petite fille qui a 12 ans.
Une tonalité sombre, parce que d'habitude, c'est plutôt Michalik que le comique.
C'est Michalik qui rit et c'est Michalik qui pleure. Il y a quelque chose d'un peu d'Anna Gavalda chez ce garçon, une simplicité, une bonté avec lequel il fait ce théâtre en fait qui parle à tous, qui va droit au cœur. C'est vrai que chez tout autre que lui, le scénario que je viens de vous raconter pourrait avoir l'air d'un peu d'une série à l'eau de rose, mais il est juste parfaitement dosé. On rit, on pleure, ses répliques font mouche. C'est vrai qu'il parle de tout simplement d'amour, de deuil, de ce qu'on doit faire, du courage qu'il faut pour s'y résoudre. On est très loin, comme vous le disiez, du théâtre auquel il nous a habitués, ces grandes fresques historiques qui ressemblaient un peu à la BD ou aux séries télé avec un détail qui permettait de changer de costume, de changer de scène en un clin d'œil. Ici, eh bien, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus linéaire, mais tout aussi juste. Décidément, il sait tout faire, et cela aussi.
Voilà, et vous savez que sur l'antenne de Radio Classique, dorénavant, donc merci Élodie, il y a le podcast d'Augustin Lefebvre, consacré au lien entre la musique classique et la pop culture. Cette semaine, Augustin s'est intéressé à Apocalypse Now avec la chevauchée des Valkyries de Wagner en fond sonore. Voici une version dirigée par Georges Solti. Dieu est tétanisé, on ne sait pas très bien lequel d'entre nous est le colonel Kurtz, ou alors au contraire Robert Duval, disant à ses petits camarades en train de remonter la rivière, vous vous en souvenez Dimitri, et si on faisait du surf au milieu donc d'un Vietnam embrasé par le napalm, c'est à la fois extraordinaire comme film, une véritable révolution, Palme d'Or à Cannes, vous vous en souvenez, et en même temps un tournage épique qui avait eu lieu aux Philippines, puisque Martin Sheen, le héros donc de ce film, avec évidemment Marlon Brando, a été victime sur place d'une crise cardiaque. Vous n'oubliez pas de regarder et d'écouter donc le podcast d'Augustin Lefebvre sur la musique classique et la pop culture. 7h47, voici le journal imprévisible. Merci à tous les trois. Il s'appelle Renouble.